tous, Morgane Guiriec en votre compagnie. Bienvenue dans l'Amérique et vous. Retour cette semaine sur le scandale provoqué par la fuite de données d'utilisateurs de Facebook. Des informations personnelles de plus de 50 millions d'utilisateurs ont été utilisées par la société Cambridge Analytica pour influencer le vote des Américains à l'élection présidentielle de 2016. Mark Zuckerberg, le patron du réseau social, s'expliquait cette semaine devant le Congrès américain. Alors, quelles sont les informations collectées par Facebook? En quoi est-ce dangereux pour les utilisateurs? Comment protéger ces données personnelles? On en discute dans ce numéro de l'Amérique et vous. Pour participer en direct, appelez le 001-202-205-2633. Pour les auditeurs qui ont laissé leur numéro sur la page Facebook de VOA Afrique, nous commençons dès maintenant à vous appeler.
Il y a plus d'hommes noirs en prison qu'à l'université. On n'a pas suffisamment d'emplois, surtout pour les jeunes noirs.
Alors, premier auditeur ce soir, c'est Yao Marcelin qui est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonsoir Yao. Yao, est-ce que vous m'entendez? Allô, allô, bonsoir.
Bon. Oui, bonsoir.
Oui, c'est Yao Marcelin?
Non, c'est Steve Boko.
Oh, Steve Boko, ben, bonsoir à vous aussi. Vous êtes également en Côte d'Ivoire, donc on n'est pas très loin. Steve, est-ce que vous êtes un utilisateur de Facebook, bien évidemment, puisque c'est là qu'on a trouvé vos contacts. Est-ce que l'utilisation de vos données, c'est quelque chose qui vous inquiète? Allô, Steve? J'ai l'impression que Steve ne nous entend pas. Bonsoir Steve, est-ce que vous nous entendez? Je crois qu'on a perdu Steve, malheureusement. Alors je rappelle, bon, on a Yao Marcelin. Bonsoir Yao. Allô? Bonsoir Yao, est-ce que vous m'entendez? C'est Morgane Guiriec.
Bonsoir Morgane.
Alors... Bonsoir. Alors Yao, le sujet du jour, hein, c'est Facebook et l'utilisation des données. Vous êtes bien évidemment un utilisateur de Facebook. Vous réagissez très très souvent sur la page de VOA Afrique. Est-ce que ça vous inquiète de savoir que Facebook collecte des données sur vous?
Il y a de quoi s'inquiéter, madame, quant à l'utilisation de Facebook. Avec les récents scandales, vraiment, il y a de quoi s'inquiéter, parce que on ne peut pas imaginer qu'une telle firme puisse vraiment se faire prendre comme ça par des erreurs. Mais le président n'est pas de erreur, mais vraiment, il y a de quoi s'inquiéter, puisque normalement, les données doivent être protégées. C'est-à-dire que c'est le seul gage qui peut mettre en confiance l'abonné. Et si ces données personnelles se doivent protéger, on n'ira pas, les gens ne viendront pas s'abonner à Facebook. S'ils n'ont pas de garantie que les données seront protégées, ils ne viendront pas. C'est vrai qu'il y a 2 milliards d'abonnés, mais à la longue, ce site est chuté. Avec les récents scandales auxquels nous avons donné de voir, le nombre peut diminuer. Les abonnés peuvent chuter peuvent chuter en cascade. C'est une préoccupation à laquelle il doit pouvoir s'adresser à cela. Parce que, il y a de quoi s'inquiéter. On est tous inquiets.
D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup Yao pour votre participation. Notre invité, on a quand même un expert ce soir, c'est Basile Nyon. Vous êtes PDG de BCCA Networks and Technology. Bonsoir Basile.
Bonsoir madame.
Alors Facebook fait en ce moment l'objet d'une énième polémique. Hein. Cette fois-ci, c'est le cabinet d'analyse Cambridge Analytica qui a capté les données personnelles de plus de 87 millions d'utilisateurs Facebook. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas Facebook qui a partagé ces données, n'est-ce pas?
Non, c'est en deux étapes que ça s'est passé. Hein, parce que il y a d'abord un professeur d'université qui, suivant les tests de Facebook, a demandé à Facebook de lui mettre à disposition des données pour une étude au sein de l'université. Ce que Facebook n'a pas trouvé anormal, ils lui ont remis les données. Et quelques temps par la suite, il est revenu leur envoyer un courrier pour leur dire qu'ils sont amenés à travailler avec un cabinet extérieur et qu'ils voudraient donc lui remettre ces données-là pour travailler avec eux. C'est comme ça que ces données-là se sont trouvées à l'extérieur de l'université. Et donc ce cabinet, qui est un cabinet privé, en a disposé. Et ça fait le tollé que ça fait aujourd'hui. Mais la première initiative, c'était de donner les données à une université qui avait besoin de cela pour travailler. Ce n'est pas pour un usage public. C'est l'université qui, par la suite, voulant travailler avec Analytica, a écrit à Facebook. Facebook n'a pas réagi. Et ils ont donné les données à Analytica.
Donc cette fois-ci, c'est Facebook qui s'est fait avoir. Cambridge Analytica était au service de Donald Trump lors de sa campagne présidentielle en 2016. Finalement, à quoi ont servi les données captées par Cambridge Analytica ?
Les données servent à profiler les utilisateurs de Facebook. Vous savez, Facebook peut vous collecter jusqu'à 98 données personnelles quand vous êtes sur Facebook. Jusqu'à 98 données personnelles. Elles sont longues à citer, mais si on veut que j'en cite quelques-unes, je pourrais le faire. Et donc, ces données permettent de profiler les gens. Il y en a qui sont sensibles à telle activité sociale, il y en a qui sont sensibles à telle activité politique. Et donc, un président qui a le profil des utilisateurs américains et qui sait que, par exemple, les gens sont très sensibles aux problèmes d'immigration, ils sont très sensibles au programme du genre, etc., etc. Dans la compilation, on lui ressort les points clés qui intéressent la population. Et ces points-là, il peut les inclure dans son discours de campagne. Vous voyez bien que quand on touche à un point qui vous tient à cœur, vous dites, mais c'est peut-être pas un candidat de mon bord, mais je suis prêt à le voter parce qu'il va faire des choses qui me conviennent. Mm-hmm. Voilà au moins une partie à quoi peut servir ces données compilées. Je dis bien compilées, parce que c'est vraiment un travail de recherche scientifique de compiler, de profiler les usagers de Facebook.
Alors c'est dans ce contexte que Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, s'expliquait cette semaine devant le Congrès américain. À quoi est-ce que ces audiences ont servi ? Qu'en est-il sorti ?
Bon, il y a un problème déjà au niveau du Congrès, parce que le Congrès est dominé aujourd'hui par les républicains. Et les républicains sont de ceux-là qui ne veulent pas entendre parler de régulation du tout. Dans les secteurs, surtout dans celui de l'Internet et des réseaux sociaux, ils ne veulent pas entendre parler de régulation. Donc si cet exercice ayant eu lieu, s'il y avait une décision à prendre, c'est une décision qui risquait d'aller dans le sens de réguler Facebook ou de réguler toutes les plateformes sociales comme Facebook. Bon, mais ce à quoi les gens n'ont pas fait attention, que ce soit les sénateurs ou ceux du Congrès, ils ont tous une page Facebook. Que ce soit les sénateurs ou ceux du Congrès, ils ont tous une page Twitter. Donc, réguler cela, les conséquences peuvent les rattraper eux-mêmes. Du coup, c'était en quelque sorte un coup de semence à Mark Zuckerberg pour lui dire « Prends soin de ton affaire et qu'est-ce que nous ne soyons pas amenés à réguler cela dans un proche avenir. »
Alors justement, est-ce que le patron de Facebook s'est engagé à mieux protéger les données des utilisateurs ?
Ici, engagé, quand vous voyez les questions et réponses qu'il a eues avec la plupart des sénateurs et ceux du Congrès, et en grande partie sont les démocrates qui ont posé beaucoup plus de questions dans ce sens, il s'est engagé humblement à travailler au niveau de ses équipes, à mettre une réglementation en place qui protégera mieux les données personnelles de ses utilisateurs au niveau de Facebook. C'est un engagement qu'il a pris. Cet engagement permet de ne pas aller plus en avant et de réclamer une régulation. De toute façon, pour la régulation, il l'a dit, il fait accepter la régulation qu'elle vienne du Sénat ou du Congrès, il est prêt à la suivre, mais il leur dit aussi que cette régulation va porter plus atteinte à ses compétiteurs de petite taille qu'à lui-même, parce qu'une structure comme Facebook a la dimension qu'elle a, elle a tous les moyens de naviguer dans une régulation quelconque qu'on mettra en place et de ne pas en être affectée. Mais les petites plateformes qui sont concurrentes vont se retrouver à fermer leurs portes et il sera automatiquement en position de monopole. Mais ce ne sera pas de sa faute, puisqu'on a régulé les autres, s'ils ne peuvent pas suivre, ils vont fermer. Il va être en position de monopole. C'est ce qu'il leur a dit. Il peut suivre toute régulation. Mais voilà les risques.
Alors, on va prendre un auditeur. Au bout du fil, nous avons Donny Champion qui est en Italie. Bonsoir, Donny.
Bonsoir, madame.
Alors, est-ce que vous avez une question ou un commentaire?
Bon, moi, j'ai d'abord, dans un premier temps, j'ai un point de vue à donner.
Oui.
Je pense que par moment, sur les réseaux sociaux, nous, en tant qu'Africains, on se jette là-dedans sans comprendre véritablement le vrai fond de la chose. Parce que les Européens, ils ont pris la peine de créer un peu tous ces réseaux sociaux-là. Bon, je vais aller un peu plus loin pour espionner, en fait. Mais l'Africain, il arrive. C'est là qu'il étale toute sa vie, sans aucune retenue. Parce que le truc qu'il fait, c'est juste pour se faire des connaissances. Pour ceux qui veulent faire, par exemple, des affaires, c'est le monde de pouvoir se connecter et se faire des amis, faire des affaires et tout. Mais là, l'Africain, il arrive toujours. Nous, les Africains, on arrive sans toutefois prendre la peine d'avoir un peu de retenue. Et par moment, c'est tout ce qui se passe aujourd'hui sur ce que moi j'appelle la toile, parce qu'il y a aussi WhatsApp, mais aujourd'hui c'est de Facebook qu'on parle. Mais heureusement pour nous qu'aujourd'hui il y a eu des fuites. Mais ces fuites-là doivent enseigner un peu chacun de nous. Moi, je ne suis pas beaucoup technique, donc ceux qui connaissent le domaine technique, ils savent de quoi il s'agit, mais moi, j'ai beaucoup de retenue à tout ça. Et je me dis, nous, en tant qu'Africains, on doit beaucoup apprendre de certaines erreurs des Européens. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes les ceux-là même qui sont vraiment utilisés dans tout ce qui est erreur humaine, erreur même au niveau de la technologie. Parce que c'est maintenant que c'est vrai que nous avons de la potentialité, comme on le dit, parce qu'on a un peu partout dans tout le monde entier des étudiants qui acquièrent la connaissance grâce aux études approfondies. Mais aujourd'hui, l'Afrique doit avoir sa place. Mais avoir sa place ne veut pas dire qu'on vient là pour étaler un peu sa vie sur les réseaux sociaux. La question que je voudrais poser à votre invité qui est en ligne, je voudrais lui demander exactement, quand on parle de fuite des données, il s'agit réellement de quoi ?
Ah, alors, Basile Nyon, c'est une question que je comptais vous poser. Quelles sont les données collectées ?
Alors, surtout si vous utilisez un Android, et que vous voulez télécharger l'application Facebook, il y a donc un questionnaire qui vous arrive pour demander si vous êtes d'accord que Facebook ait accès à telle donnée, et vous dites oui habituellement, puisque vous voulez, votre souci c'est de télécharger l'application Facebook. Mais vous dites un oui sans peser vraiment les vrais conséquences de ce qu'on vous a demandé. Ce qui fait que quand vous téléchargez Facebook sur votre Android, vous communiquez.
Alors là, c'est vraiment très embêtant. On a perdu notre expert, on a perdu Basile Nyon. Donc, on va prendre un auditeur. En attendant, peut-être qu'on peut retourner vers Denis Champion. Est-ce qu'il est toujours là ?
Je suis en ligne.
Oui, alors malheureusement, hein, on n'a pas eu toute la réponse de Basile, mais il avait l'air de dire que quand on télécharge l'application sur Facebook, on a quand même une notification qui nous informe que les données vont être utilisées. Et pourtant, oui. Ça n'a pas l'air de dissuader les utilisateurs. Est-ce que vous, par exemple, vous prêtez attention à ce genre de message avant de confirmer?
Non, mais pas du tout. Moi, vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai dit que en matière d'informatique, vous savez, tout est une question de culture. Nous, en tant qu'Africains, quand tu es arrivé, déjà même être sur Facebook, c'est déjà un pas en avant. En tant qu'Africain, tu te dis, voilà, j'arrive sur dans un monde virtuel où il y a déjà des millions de personnes connectées. L'idéal serait la première idée qui nous saute par la tête, c'est d'être parmi ces personnes. Parce que on a aussi ce souci-là de ne pas être en retard par rapport à la technologie. Donc, quand tu arrives, je me dis que les Blancs...
Il y a un enthousiasme. C'est ça.
Vous m'entendez ?
Les gens sont enthousiastes. Alors attendez, je suis désolée de vous couper, hein, Denis, puisqu'on a à nouveau Basile Nyon avec nous. Et j'aimerais bien qu'il termine son explication sur le type de données collectées. Basile, vous étiez en train de dire que quand on télécharge l'application sur un téléphone, on a tout de même un message qui nous informe qu'on va collecter nos données. Et là, qu'est-ce qui se passe en général ? On dit oui sans vraiment prêter attention.
Voilà, et n'oubliez pas que cette collecte de données est identique à toutes les applications. Hein. Toutes les applications que vous téléchargez sur Android vous posent la question de savoir si vous acceptez qu'elle ait accès à votre caméra, à vos photos, à votre localisation, à vos communications téléphoniques, à votre carnet d'adresse, etc. C'est listé.
C'est-à-dire que toutes les informations contenues dans notre téléphone, en dehors même de l'utilisation de l'application en question, vont être connectées.
Elles vont être connectées. Mais ce qui est plus grave, à laquelle les gens ne font pas attention, on vous demande si on peut avoir accès à votre caméra.
Ah, et alors ça implique quoi?
Les gens disent oui, mais la caméra peut être activée à distance. Vous ne pouvez pas le savoir, il n'y a pas d'alarme, il n'y a pas de bruit. La caméra peut être activée à distance, puisque vous avez donné l'autorisation d'accéder à votre caméra. Et quelqu'un peut donc activer votre caméra à distance et voir ce que vous faites. Enregistrer cela.
Donc, il me semble qu'on a un auditeur, il s'agit de Steve Bocco, n'est-ce pas? Alors, Steve, est-ce que vous êtes avec nous?
Oui, je suis en ligne.
Alors, vous entendez ça, hein, Steve, sur votre téléphone, quand vous téléchargez une application, vous vous exposez au risque que cette application puisse utiliser votre caméra sans que vous le sachiez. Ça fait peur quand même.
Oui, ça fait peur. Et que c'est une information qu'ils viennent de nous donner aussi. Parce que nous, Africains, nous ne faisons aucune attention à toutes ces choses. On va directement à ce que l'on veut se libérer. Pourtant, il y a beaucoup de risques qui sont à catimini. Donc, vous voyez, donc pour cela, je félicite d'abord même votre invité qui est à l'antenne, qui nous éclaire beaucoup de choses. Donc, pour cela, et prochainement, nous allons faire beaucoup de remarques maintenant. Sinon, Facebook est bon, c'est un canal qui essaie de réunir des nouveaux et des vieux amis que nous cherchons à voir. Et ça fait beaucoup de choses. Pour moi, mon Facebook m'a beaucoup aider à retrouver mes amis et à échanger, faire des affaires même avec. Donc, les données qu'il dit là, donc s'il peut essayer de mieux donner les explications, sinon ce qu'il nous dit que Facebook en téléchargeant les choses, moi,
j'aimerais bien vous poser.
Donc, je me laisse avoir les vraies données qui est à l'antenne.
Alors, Basile va nous donner toutes ces informations, mais quand même, alors, vous n'étiez pas au courant que la caméra pouvait être activée à distance. Maintenant que vous le savez, est-ce que ça va vous empêcher de continuer d'utiliser les médias sociaux? Ou est-ce que vous allez laisser ces médias sociaux envahir votre vie et filmer sans que vous le sachiez?
Ah oui, bon, on ne peut pas laisser parce que nous sommes déjà accro de ça. C'est la mondialisation en un mot. Donc on ne peut pas essayer d'en empêcher à cela. Nous sommes déjà là-dedans, donc on va essayer de gérer comme ça. Bon, comme information, je souhaiterais que vous m'envoyez le canal de la radio sur ma boîte Facebook.
D'accord.
Parce que ici, je suis à Bengourou, je ne suis pas à Abidjan, je suis un peu à l'est de la Côte d'Ivoire, mais je n'arrive pas à vous joindre ici.
D'accord.
Donc, cela, si vous m'envoyez, cela m'arrangerait beaucoup.
D'accord. Mais alors, Basile, je retourne vers vous, hein, vous avez entendu, hein, Steve a vraiment envie de savoir quelles sont les données qui sont collectées, parce que finalement, les gens ne savent pas vraiment.
Il y a au moins 98 données personnelles. Si je me mets à les citer, votre temps d'antenne va s'épuiser, mais je peux commencer.
mais quelques, les plus importantes ou celles que les gens ne réalisent pas forcément?
Alors, les plus importantes, c'est d'abord l'activation de la caméra. On vous dit, vous donnez accès à votre caméra, première chose. La deuxième chose, c'est de dire, vous donnez accès à votre carnet d'adresse. Donc, toutes vos connaissances, tout votre carnet d'adresse est connu. Vous pouvez de toute façon ces données-là, vous pouvez les télécharger sur votre Facebook. Vous pouvez les télécharger. Et si les gens n'y font pas attention, Facebook a donné l'opportunité de télécharger les données qu'ils ont sur leur serveur. Et vous allez être surpris de voir que tous les jours où vous allez appeler, où on vous a appelé, vous avez le détail de vos appels, qui vous a appelé, à quel jour, quelle heure, ça a duré combien de temps, est-ce que l'appel a réussi, il a joué. Vous aurez tout ça comme détail.
Alors, donc, point de tension aussi, c'est le contenu des messages. On écrit un message en privé, on a l'impression que c'est privé, ce n'est pas forcément le cas.
Non, c'est toujours sur le serveur. Oui. Tout votre timeline, toutes vos photos, tout ce que vous échangez en privé, en mode privé, etc., ça passe par un serveur. Le serveur est fait pour capter cela et le garder. Ça fait partie des données qui sont déjà sur le serveur. Toutes vos conversations. Vos dates d'anniversaire, ce que vous avez tagué sur les photos, Facebook en tient compte. c'est sûr que vous avez tagué XYZ, donc il est proche de vous, c'est l'anniversaire de XYZ, à l'approche de son anniversaire, cette personne sera étonnée de voir sur sa page Facebook des publicités qui sont relatives à l'anniversaire.
Alors, bon nombre d'utilisateurs hein, se disent, bon, finalement, qu'est-ce que ça peut bien faire qu'on collecte mes données? Je ne suis pas un criminel, je n'ai pas grand-chose à cacher. Et ils continuent comme ça. Mais par contre, ce qu'on ne réalise pas forcément, c'est que ça peut avoir des conséquences bien plus graves. Et l'affaire Cambridge Analytica l'a révélé. Il peut y avoir des conséquences politiques, une manipulation de l'opinion.
C'est justement le but du profilage. Vous avez vu le nombre de personnes qui ont été ciblées aux États-Unis. Et ce nombre n'est pas déterminé au hasard, c'est un échantillonnage. Il y a un niveau critique d'échantillonnage qui permet de refléter le comportement général des gens. Donc ce nombre-là a été dicté par cet échantillonnage. Et Analytica a pris cela. Et quand on lui pose une question, il met dans les serveurs pour pouvoir faire le clic. Et sorti ceux qui sont sensibles à ceci, ceux qui sont sensibles à cela, en leur apportant par pourcentage. On a dit, bon, plusieurs personnes ne sont pas pour l'immigration. Ils sont contre l'immigration. Et donc, sur les gens que nous avons, 60% sont contre l'immigration. Et le président qui veut se faire élire, qui arrive demain, il a un discours anti-immigration. Il parle d'un discours anti-immigration, il sait que ça va toucher une bonne partie de la population.
Alors ça c'était aux États-Unis, mais est-ce que une dynamique similaire pourrait être envisagée en Afrique? Est-ce que les gouvernements ou les hommes politiques pourraient faire la même chose?
Ça va être compliqué en tant qu'utilisation endogène en Afrique, parce que ça suppose la mise en place d'équipements, de serveurs lourds, et surtout d'algorithmes extrêmement peaufinés qu'il faut mettre à jour régulièrement pour pouvoir faire ce profilage-là. Mais l'Afrique est un terrain de chasse, c'est un terrain qui permet... Facebook n'est pas limité au pays, n'est pas limité au continent, donc chacun peut y avoir accès de l'extérieur. Et donc ceux qui veulent manipuler des gouvernements à mettre en place, qui peuvent être en faveur de leur intérêts, ils vont voir le comportement de la population, surtout la population jeune et votante, pour voir les points sur lesquels la population est sensible, etc. Et puis s'ils ont quelqu'un à pousser pour qu'il se fasse élire, on lui recherche toute une feuille de route là-dessus pour lui dire si tu vas faire un discours, appuie sur ce point-ci, ce point-là, ce point-ci, ce point-là. Si l'adversaire en face n'a pas eu cet appui, il va faire un discours creux, mais qui ne va pas résonner dans le cœur des gens. Mmh. Et il va se retrouver peut-être bien apprécié en tant que tel, mais son programme de gouvernance ne porte pas. Parce qu'il n'a pas touché la corde sensible chez les gens. Voilà donc, pour l'Afrique, ça va être des choses dirigées de l'extérieur pour aider quelqu'un à être au pouvoir.
Mais alors, tout de même, hein, de façon très concrète, aujourd'hui, quand même, les gouvernements africains regardent de très près ce que les utilisateurs postent sur leur page, au moins ça.
Ils le font dans un souci de répression. On ne le fait pas dans un souci d'élaborer le profil des gens sur tel ou tel sujet. Mmh. Ils se disent, les gens vont sur Facebook, ils se donnent des rendez-vous pour des manifestations. Ils se donnent des rendez-vous pour des marches. Ils se passent des messages. Et donc, ce sont des comportements qui peuvent porter atteinte à la quiétude et à la sécurité, d'après, entre guillemets, à la sécurité de l'État. Donc, quand on surveille les Facebookers, c'est parce qu'on veut savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de manifester en tant que groupe contact qui essaye de se donner des mots d'ordre pour faire quelque chose. C'est la surveillance. Une surveillance de répression. Ce n'est pas une surveillance de statistiques et de projections.
Oui. Ce ne sont pas les données privées, mais bien ce qui est posté plus ou moins au vu de tout le monde. Ce seront les mots de la fin. Merci beaucoup, Basignon, pour votre analyse. Merci à tous nos auditeurs. À la production, c'était Cheikh Thiérot, Morgane Guiriec au micro. À très bientôt.